Voilà, c'est parti. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, en fait, le sujet de notre enseignement aujourd'hui, c'est un sujet qui est tiré de la Christologie, et c'est sur l'union des deux natures de Jésus-Christ.
So the subject of today's preach is taken out of the Christology, and that is the union of the two natures of Jesus Christ.
Donc, en fait, dans le cadre de ma formation pastorale avec le pasteur Mike, je suis invité en fait aujourd'hui à enseigner sur le thème de la Christologie.
So in Max's pastor training with Pastor Mike, one of the subjects was Christology.
Et donc j'ai choisi donc dans la Christologie de vous présenter un aperçu en tout cas de la question des deux natures de Jésus-Christ.
So Max chose this insight into the Christology that he wants to share with you.
Les deux natures, donc humaine et divine, bien sûr.
The nature of human and the divine.
Alors, comme nous le savons, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ est une personne unique, c'est qu'une seule personne, Jésus.
As we all know, Jesus Christ is a very unique person.
Qui est donc 100% homme, sans péché, bien sûr.
He is 100% man without sin.
Et 100% Dieu.
He is also 100% God.
C'est ce qu'on a vu d'ailleurs récemment avec l'étude de l'évangile de Jean fait par le pasteur Mike.
This is what we have already seen with the studies of the Gospel of John.
Alors c'est un enseignement en fait qui de nos jours semble acquis.
Knowledge is seems to us is already acquired.
Mais il ne faut pas croire que cela a toujours été ainsi.
But we have to know that this is not always the case.
Ainsi dans toute l'histoire de l'Église en fait.
During the whole history of the church.
Et d'ailleurs, je vais juste vous faire un petit résumé de l'histoire pour le comprendre.
So I will just give you a short history to learn about this.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'en fait, finalement, très tôt dans l'histoire de l'Église primitive, c'est-à-dire à peu près les trois premiers siècles.
So we can see in the very primitive period of the church in the first three centuries.
Il y a des fausses doctrines qui naissent dans l'Empire, dans les communautés chrétiennes sur Jésus.
There is false belief about Christ in the empire. In the Christian community.
Alors sur quelques-unes de ces fameuses communautés, peut-être que vous avez déjà entendu parler ou lu dans vos lectures personnelles. Par exemple, il y a les Ebionites et les Alloges.
There are several of these communities we've already probably read about them. The
Ebionites.
Ebionites.
Alors, eux, ils voient en Jésus un simple homme.
They see Jesus as just a simple man.
Qui devient en fait par la suite un fils de Dieu parce qu'il a été toute sa vie obéissant à Dieu en fait.
And he became the son of the God because he was obedient for all his life.
En fait, il devient Messie et fils de Dieu par ses propres mérites.
In fact, he became the Messiah because of his own deservedness, merit.
D'autres aussi considèrent Jésus comme un simple homme qui devient fils de Dieu, mais par adoption, lors de son baptême.
The other communities, they believe that Jesus is a simple man and he was adopted by the God as his son.
Il reçoit en fait, il pense qu'il reçoit la divinité d'en haut lors de son baptême en fait. Voilà.
They thought that he received the divinity when he was baptized.
Et c'est surtout des communautés qui sont dans l'erreur. Parce que, en fait, ils rejettent, par exemple, l'évangile de Jean.
And these are especially the communities that were wrong and they rejected the gospel of John.
Vous avez peut-être aussi entendu parler des gnostiques. Alors eux, c'est complètement l'inverse. Ils divinisent entièrement Jésus.
You probably already also heard about Gnostics. they are the totally opposite. They believe that Jesus is 100% God.
Ils voient en fait Jésus comme un, on va dire comme un être céleste qui descend du ciel.
They believe that Jesus is a celestial being that descended from the heaven.
Donc finalement, ils tombent dans l'hérésie parce qu'ils veulent en fait absolument écarter tout ce qui est la chair, le corps.
So they also fall into the heresy because they rejected all aspects about Jesus in terms of body and corporal.
Parce qu'en fait, c'est le péché. C'est là où il y a le péché.
Because they believe the corporal aspect about human being is sinful.
Et donc, on comprend bien qu'ils sont eux aussi dans l'erreur, en fait, parce qu'au niveau des Écritures, nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est sans péché, même s'il est homme, 100% homme, il est sans péché.
So they also fall into the error because we learn from the scripture that Jesus, although being 100% man, but he is without sin.
Alors, par la grâce de Dieu, bon, les pères de l'Église de l'époque.
So by the grace of God, the fathers of the church
ont combattu toutes ces hérésies.
They were fighting against all these heresies.
On peut citer quelques noms. Il y a Ignace d'Antioche.
We can quote some of them. There's Ignace of the Antioch.
Il y a aussi, vous connaissez sûrement Irénée de Lyon.
There's also the Irénée of the Lyon.
Ou bien Origène.
Also the Oregon.
Ensuite, si on continue un peu l'histoire,
so we continue with the history.
À partir du 3e siècle, des autres querelles subsistent encore. D'autres querelles, des querelles, des disputes.
Starting from the 3rd century, there's other dispute discussions.
En particulier dans les églises d'Orient.
Especially in the Oriental churches.
En particulier Antioche, Alexandrie, toutes ces grandes églises.
Especially the Antioch and the Alexandria.
Alors ce sont des querelles en fait vraiment très subtiles.
These are very subtle disputes.
Et pour faire court, pour aller rapidement, les pères de l'Église ont encore combattu toutes ces hérésies.
So the church's fathers also were fighting against all these heresies.
Donc ils ont vraiment combattu sur la juste doctrine des deux natures de Jésus, bien sûr.
They are really fighting for the doctrine of the two natures of the Christ.
Mais bon, malgré le combat des pères de l'Église, il y a toujours des hérésies qui continuent à naître.
So, despite of this defense from the church's fathers, there were still heresies.
Et donc, ce qui se passe, c'est en 451.
So what happens in 451?
L'empereur byzantin qui s'appelle Marcien intervient.
So the emperor Marcien, he intervened.
Et convoque en fait ce qu'on appelle un concile œcuménique.
So he convoked a meeting.
Yes, a big meeting.
big meeting.
Parce qu'il réunit quand même 343 évêques.
So he reunited 343
évêques.
343 archbishops.
Yes, bishops. Ce qui est exceptionnel pour l'époque.
Which was very exceptional for the time.
Et donc, il les réunit en fait dans une ville qui s'appelle Chalcédoine.
So they were reunited in a city called Chalcedonia,
qui est une ville grecque en fait, qui se trouve maintenant dans l'actuelle Turquie.
Which was a Greek city that is situated now in Turkey.
Alors, c'est lors de ce concile de Chalcédoine.
So this single to this conference of Chalcedonia,
qu'on va mettre vraiment par écrit la juste doctrine sur les natures de Jésus.
We'll put the end by writing it down the nature of the Christ.
Et vraiment basé sur la parole.
Which is really based on the scripture.
Alors ce texte est justement appelé le symbole de Chalcédoine que Lisel avait mis, le voici. Donc ça c'est la première partie.
So this is a symbol of the Chalcedonia. This is the first part.
Et qui déclare, si je résume, que les deux natures, que bien sûr que Jésus a deux natures, hein, vrai Dieu et vrai homme.
So it emphasizes that Jesus has two natures, one human, one divine.
Et qu'il est parfait, bien sûr, dans sa divinité et parfait dans son humanité.
And he is perfect in his divinity and as well as perfect in his humanity.
Alors ce texte, nous allons le voir rapidement.
This text that we're going to read.
Et je vais vous le commenter car il va en fait nous permettre d'arriver vraiment au sujet de l'union des deux natures en Jésus-Christ.
And we will see that it talks about the union of the two natures of the Christ.
Alors je vais vous lire déjà la première partie.
I will read the first part.
Alors suivant donc les saints-pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils. Donc ici, un seul et même Fils.
Okay. So, here it says, according to the Holy Fathers, we know that we know unanimously that we confess a single and a same Son.
Oui, tu peux résumer en fait, pas obligé de tout traduire. Oh. Ok. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, donc ça je l'ai mis en gras, c'est important.
Our Lord Jesus Christ, the same perfect in divinity and the same perfect in humanity.
Donc le texte déclare aussi qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme.
He is the real God and the real human.
Alors composé effectivement d'une âme raisonnable et d'un corps, ça, c'est normal.
And he has out of a soul, a reasonable soul and a body.
Alors consubstantiel au Père selon la divinité, ça veut dire en fait qu'il est de même nature que le Père, hein, nature divine.
He is consubstantial with the Father in his divinity. Consubstantial meaning that he has the same substance with the Father.
Voilà, et de même, on dit, est le même consubstantiel à nous, selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché.
And he is consubstantial to us, in terms of humanity. He is likewise to us, except the sin.
Donc voilà cette première partie, en fait, qui répète ce que je vous ai déjà expliqué juste avant. Donc cette première partie qui insiste sur les deux natures de Christ, 100% homme sans péché et 100% Dieu.
So this first part emphasizes on the two natures of Christ, the 100% humanity and 100% divinity.
Voilà, maintenant nous allons arriver dans la deuxième partie qui va
so
nous intéresser
le
plus.
To the second part,
et qui rentre un peu plus dans les détails.
Which dives into the details.
Et surtout la partie que j'ai surlignée.
The highlight part.
Alors je vais lire, c'est écrit. Donc un seul même Christ, fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu donc de nature. Et là on rentre dans les détails, ils disent de nature certes, mais sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant en une seule personne et une seule hypostase. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils.
So the single unique Christ, Son of the Lord, uniquely born and well known, was in two natures, without confusion, without change, without division, and without separation. And the differences between the two natures are not reciprocally cancelled because of the union, and the property of one and the other nature are rather concurrent and saved in one person and in one hypostasis. Christ is not to be fractioned and not to be divided into two persons, but in one single and unique soul.
Merci, Jean. Alors, que veut dire simplement ce passage très important que je vais résumer?
So this is a very important passage that I will resume.
Tout d'abord, ce que j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que Jésus est une seule personne.
So, first of all, Jesus is one person.
Il n'y a pas deux Jésus.
There's no two Jesuses.
Donc ça, c'est important, c'est bien souligné dans le texte.
This is very important and also
qu'il est une seule personne.
That is one person.
Que Jésus, donc, a deux natures.
That he has two natures.
Encore une fois, humaine sans péché et divine.
The same time, human without sin and divine.
Et ce qui est donc rajouté par rapport à avant, c'est que en parfaite union.
To be added is that they're in perfect union.
Ce qu'il faut comprendre, c'est pas deux natures qui sont côte à côte.
So what has to be understood is that this is not two natures side from the other.
Elles sont vraiment en union.
They're really in union.
C'est pour ça qu'on dit aussi, c'est un terme un peu théologique, une seule hypostase.
So that's why we have this theological term, hypostase.
C'est-à-dire, Jésus est une personne, comme nous. Sean est une personne, Max est une personne, Lisèle est une personne.
So, which is like Jesus is a one person, like us, like me, like Max, Lisèle.
Voilà, notre nature, notre hypostase, c'est la nature humaine.
And our nature, our hypostase is human.
Jésus aussi a une seule hypostase qui est en fait l'union des deux natures.
So Jesus also has one hypostase which is the union of two natures.
Mais comme nous le voyons dans le texte, en fait cette union est définie par plusieurs termes.
As we have seen in the text, this union was defined by several terms.
On a dit qu'elle est sans confusion.
That the union is without confusion.
C'est-à-dire que dans l'union des deux natures, il n'y a pas de mélange des natures.
Which means that in this union, there is no mixed up.
D'ailleurs, nous savons très bien que bibliquement, Dieu est Dieu, il est le Créateur et nous sommes des créatures.
Because in the scripture, we know well that God is God and we're the created ones. There's no confusion.
On nous dit aussi que c'est sans changement.
We also know that it's without change.
Ce qui veut dire qu'en fait, que chaque nature ne se transforme pas.
Which means either of the nature will transform.
Se transforme pas pour prendre des, en anglais, je sais pas comment on dit, mais pour prendre des attributs de l'autre nature.
Which means we cannot take the attributes of the others to the one.
Parce que, par exemple, si la nature humaine de Jésus prenait, par exemple, l'omniscience de sa partie divine, par exemple, si la nature humaine de Jésus prenait l'attribut de l'omniscience divine...
For example, the human nature of Christ cannot take the omnipresence of the divine side.
Oui, on pourrait plus dire que l'humanité de Jésus est comme la nôtre.
We cannot say that the humanity of...
Et vice versa, si l'humanité de Christ prenait quelque chose d'humain, ça ne serait plus Dieu. On aurait changé Dieu.
We can either say that the human side of the Christ takes something from us, and he is no longer God.
Ainsi, lorsque en fait Jésus agit en tant qu'homme, en fait, il ne manifeste pas des attributs en fait qui sont de nature divine. quand Jésus agit en tant qu'homme, en fait, il ne manifeste pas des attributs divins.
When Jesus acts as a man, he doesn't manifest, he doesn't show the attributes of God.
Donc il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de changement.
So there is no confusion, there is no change.
Et c'est vraiment important de bien saisir ça, parce que nous verrons après des exemples où vraiment on voit cela.
It's very important to get a grasp on this because we will see examples.
Alors, comme exemple, on va prendre Romains, par exemple. Romains, chapitre 9, verset 3-5.
So, an example is from the Romans, chapter 9, verse 3-5.
Où on va voir, en fait, qu'il y a bien deux natures distinctes, mais en union.
We will see well that there's two distinct natures, but in union.
Alors, je vais lire les versets. Donc, oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Et les patriarches, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen.
I think you have the English version
Donc ce qui est important ici, c'est au verset finalement, au verset 5, où on parle de Christ.
What is important is the fifth verse.
Et on dit en même temps qu'il est issu dans son humanité, donc qu'il est 100% homme.
That he was the outcome issue. How was this translated in the English Bible? He was an outcome of his humanity.
Et on dit également qu'il est au-dessus de tout et qu'il est dit aussi qu'il est Dieu béni.
That he is above all, that he is the blessed God.
Un autre exemple, donc en Philippiens aussi.
Another example is in the Philippians.
Chapitre 2, versets 6 à 11.
Chapter 2, verse 6 to 11.
Alors je vais le lire. Donc, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc là, de la même manière, on parle toujours de Jésus-Christ, une seule personne.
So this is the same way we always talk about Jesus Christ in his one person.
Et de la même manière qu'en Romains 9, on voit qu'on lui donne donc une condition divine.
That we already saw in Romans 9.
On dit même au verset 11 que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est-à-dire il est Dieu.
We also see that in the verse 11, every tongue confesses that Jesus Christ is Lord.
Mais au verset 7, on insiste aussi sur le fait de sa condition humaine.
But also verse 7 insists on his human aspect.
Il est semblable aux êtres humains, un simple homme.
And his main human likeness being found in appearance as a man.
Donc voilà ce que nous a apporté le symbole de Chalcédoine.
So this is what we see in the symbol of Chalcedonia.
Donc on pourrait croire que grâce à cet écrit-là, toutes les choses sont parfaites après
451.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
But unfortunately, this is not the case.
Alors, pour aller un peu rapidement dans l'histoire,
to go further into the history.
Au temps de la réforme protestante au 16e, 17e siècle.
And the Reformation of the Protestants.
Alors le symbole de Calcédoine, il n'est pas remis en cause.
We will see that the Calcedonia decree wasn't put into clauses.
Mais il y a quand même encore des petites disparités dans les communautés chrétiennes.
There were still some disparities between the Christian communities.
Par exemple, les luthériens, pour donner quelques exemples, ils ont tendance à donner à la nature humaine de Jésus des attributs divins.
For example, the Lutherans, they tend to give the human aspect of Jesus to the divine side of Jesus.
Les calvinistes, eux, c'est un peu tout l'inverse. Ils ont tellement envie qu'il n'y a pas d'humain qui va dans le divin ou du divin dans l'humain qu'ils sont presque en train de séparer l'union.
And for the Calvinists, they emphasize too much on the distinguishment between the two natures, so almost as if there is no union of the two natures.
Donc on voit que rien en fait n'est acquis.
So we know that nothing is taken for granted.
Et que nous autres, même aujourd'hui, il faut être vraiment vigilant sur ça pour garder la juste doctrine sur la Christologie en général.
So for us, we have to be very careful nowadays to be correct in the Christology.
On peut citer, par exemple, aujourd'hui, il y a les témoins de Jéhovah qui ne veulent pas diviniser Jésus.
For example, we can see in Jehovah's Witness today that they deny the divinity of Jesus.
Il y a aussi, des églises qui enseigne ce qu'on appelle le kénotisme. Alors, le kénotisme.
There's also a church we call a kénotist.
En fait, pour faire simple, quand on a lu tout à l'heure, est-ce que tu peux revenir sur Philippiens 2, s'il te plaît? Ouais, tu reviens en arrière. Ouais, voilà. Philippiens 2, vous voyez, au verset 7, on dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur ».
This church, they take the verse of Philippians verse 7. Rather, he made himself nothing but taking the very nature of a servant.
Bah, les kénotistes pensent que ce dépouillement, c'est que Jésus a enlevé de sa divinité des attributs.
So they understood that in this verse, Jesus actually took off his divine nature to take on the human nature.
En particulier, soit l'omniscience ou la toute-puissance.
So that Jesus won't be omniscient and omnipresent.
Et je pourrais rajouter aussi, d'une manière toujours historique,
I can also add another historical example.
C'est qu'il y en a même carrément qui rejettent le symbole de Calcédoine.
There is also churches who reject totally the Calcedonia creed.
Par exemple, il y a ce qu'on appelle les libéraux moralistes, comme Kant, vous connaissez peut-être le philosophe.
So there is also the liberals, the moralists like Kant.
Il y en a beaucoup d'autres, comme les spéculatifs qui utilisent la philosophie religieuse.
There is also the speculatists who use the philosophy.
Donc voilà, donc il existe encore beaucoup d'hérésies qu'il faut combattre même aujourd'hui.
So there is still a lot of heresy that we need to defend against.
Alors maintenant que nous avons vu un peu ce petit historique, et en particulier le symbole de Calcédoine.
So now, after we have seen all these historical events, especially the creed of Calcedonia,
on a souvent certaines questions qu'on se pose. En lisant la Bible, justement, sur l'union des deux natures de Christ.
We often have some questions when reading the Bible about Jesus' two natures.
Et là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui.
So we really enter to the subject of today.
Par exemple, parfois, quand on lit notre Bible, on peut se poser la question, on peut se demander pourquoi Christ, finalement, doit posséder deux natures.
For example, when we read the Bible, we sometimes question why Jesus has to have two natures.
Alors effectivement, c'est une très bonne question.
This is a very good question.
Alors, une des réponses simples qu'on peut donner, C'est que nous, en tant qu'hommes, nous avons péché.
So one easy answer is that we as humans we have sins.
Nous sommes tous des pécheurs.
We are all sinners.
Et donc depuis Adam, bah, nous avons offensé Dieu.
From already Adam, we have
nous avons offensé Dieu.
We offended God.
Donc normalement, c'est à nous de réparer cette offense.
So it is us who should atone on behalf of this offense.
Seulement, bah, cette offense, elle est infiniment grave.
Because this offense is very serious.
Et en fait, nous sommes incapables de réparer ça.
And it's so serious that we cannot make up for it by ourselves.
Alors, comment sortir de cette impasse, de ce problème?
So how can we come out of this dilemma?
Parce que bon, c'est l'homme qui doit réparer la faute, mais Dieu seul est capable de réparer cette faute.
We know that man has to make up for this fault and that God is capable of doing so.
Et donc la réponse, c'est Jésus, 100% homme, 100% Dieu.
So the answer is Jesus because he's 100% man and 100% God.
C'est en fait Dieu qui va venir à la croix, donner sa vie pour nous.
So it is up to God who came to the cross.
Par amour et par grâce.
By love and by grace.
Afin de prendre bah, tous nos péchés à la croix.
To take all of our sins to the cross.
Notre condamnation dans sa mort.
Our condemnation of death.
Dans sa mort, selon sa nature humaine, bien sûr.
In his death, in his human nature.
Donc ainsi, la dette, elle est payée.
So that the debt is paid.
Et nous pouvons finalement revenir pleinement dans la présence de Dieu.
So we can return in full grace to the presence of God.
On peut aussi se poser des questions sur, par exemple, les actions, le savoir ou la conscience de Jésus.
We can also question the action, the knowledge of God, of Christ.
Voilà, c'est se demander en fait comment l'union des deux natures se traduit-elle concrètement dans la vie de Jésus.
So how does two natures of Christ manifested in his real life?
Alors la Bible nous donne quelques réponses, mais pas toutes.
Bible gave us some examples, but not all of them.
Par exemple, sur la volonté de Jésus.
For example, in Jesus' intentions.
Est-ce que Jésus a une volonté, ou est-ce qu'il a deux volontés?
Does Jesus have two wills? Yeah, two wills.
Alors en fait, j'apporte déjà la réponse, mais Jésus a deux volontés.
So Jesus had two wills.
Et on peut le voir dans deux passages des Écritures, soit en Matthieu 26-39 ou en Luc 22-42. Donc on va regarder.
So we can see in two passages of Bible, one from Luke chapter 22, verse 42.
C'est un passage où Jésus est en prière à Gethsémané.
This is the passage where Jesus was praying in Gethsémané.
Alors je vais le lire, hein, Luc 22, 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc en fait, ici, Jésus s'exprime en fait par sa volonté humaine.
So here Jesus was expressing his human will.
Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, Dieu le Père et Dieu le Fils, et d'ailleurs même Dieu le Saint-Esprit, sont de même nature, sont de nature divine.
So God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are in the same nature, the divine nature.
Donc en Dieu, il y a une seule volonté.
So God has only one will.
Une volonté divine.
The divine will.
Donc lorsque Jésus ici s'exprime devant son Père, donc devant Dieu le Père, et qui dit ma volonté face à la sienne, c'est qu'il parle en fait de sa volonté humaine face à la volonté divine.
So here Jesus was crying out that my will against your will, which is translated as the human will against the divine will.
Alors pour la question sur les actions de Jésus quand Jésus fait des choses.
So about Jesus' nature when Jesus does things.
En lisant les Écritures, ce qui semble quand même évident, c'est que quand Jésus, il y a forcément deux, ce qu'on appelle deux opérations, deux actions.
So when Jesus acts, he has actually two operations.
Une humaine et une divine.
One human, one divine.
En fait, on pourrait dire qu'une action de Jésus, c'est une action qui est obtenue en fait par la coopération des deux natures.
So we can see some the Jesus final action is actually the cooperation between the two actions, the divine action and the human action.
Elles agissent en fait en harmonie ensemble.
So they act in harmony altogether.
Suivant le contexte, bien sûr.
According to the context, of course.
Par exemple, lorsque Jésus fait un miracle de guérison,
for example, when Jesus does the miracle of healing,
c'est sa nature divine qui agit principalement.
This is his divine nature that acts principally.
Un autre exemple, lorsque Jésus marche sur l'eau,
another example when Jesus walks on water,
le miracle lui est de nature divine, là il n'y a pas de souci.
The miracle is out of the divine nature. There is no question about that.
Mais l'homme Jésus, il est conscient de l'action qui se produit.
But the human nature of Jesus also was consciousness about this action.
Il marche physiquement sur l'eau.
He walked physically on the water.
Donc il y a bien une coopération entre les deux natures.
So there is this cooperation between the two.
Mais on comprend bien qu'il est difficile, en fait, à ce stade, de vraiment décortiquer toutes les choses en Jésus.
So it's obviously very difficult to dissect all these details.
Donc il faut vraiment rester humble et comprendre qu'il y a des mystères que la Bible ne nous révèle pas.
We also have to remember that there's also mysteries in the Bible that we don't understand.
Par exemple, quand on se pose la question sur le savoir de Jésus.
For example, when we question about Jesus' knowledge,
c'est vrai que le Nouveau Testament il atteste qu'il y a en Jésus un savoir divin et un savoir humain.
Of course, Jesus will have the human knowledge as well as divine knowledge.
Que le savoir humain de Jésus, il est limité parce qu'il est un homme comme nous.
And the human knowledge of Jesus is limited because he's like us.
On peut le voir par exemple en Marc 13, 32.
We can see in Mark 13, verse 32.
Où il est écrit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors, Jésus ici parle pleinement dans sa condition humaine, ça on le comprend, parce que il montre qu'il n'a pas accès au savoir humain, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a dans l'union des deux natures, il n'y a pas de confusion.
So apparently Jesus here was speaking out of his human nature, and we have to know that his human nature is limited, and we know that the two natures doesn't mix. So in that way, Jesus cannot know further.
Et c'est vrai que personnellement, c'est un verset qui pendant très longtemps m'a embêté.
Actually, this is verse that troubled Max for so long.
Parce que en fait, on se dit là, il parle en tant que 100% homme.
Here we see that he speaks as 100% human.
Donc on comprend qu'il est limité dans son savoir.
And we see that he is limited in his knowledge.
Mais en même temps, on fait l'erreur de dire oui, mais il est quand même 100% Dieu, donc il doit savoir.
But we also question, since he is also 100% God, he should know.
Et c'est ça un peu la complexité, le mystère, c'est qu'à un moment donné, Jésus peut parler pleinement dans sa condition humaine, comme agir pleinement dans sa condition divine.
So this is also one of the mysteries. in given contexts like this, Jesus can speak in fully in his human aspect, vice versa, fully in his divine nature.
Parce qu'il faut se rappeler que par rapport aux Écritures, par rapport au symbole de Chalcédoine, les deux natures dans l'union restent distinctes.
Because according to the scripture and according to the creed of Chalcedonia, the two natures, they are distinct, they are not mixed up.
Puis enfin, une dernière question que dont j'avais parlé un peu plus haut, c'est concernant la conscience de Jésus.
So the last question I'd like to talk is the conscience of Jesus.
À ce niveau-là, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce qu'au niveau des Écritures, on n'a rien de très consistant.
This is even more complicated because at the base of scripture we don't really have a law.
On peut imaginer qu'il a une conscience humaine, bah, logiquement qu'il a une conscience humaine et une conscience divine.
So we can imagine that he has one consciousness from God and one consciousness from human side.
Par exemple, on peut se poser la question, bah, quand Jésus est né, qu'il était petit, est-ce qu'il avait pleinement conscience qu'il était Dieu?
For example, we can question whether when Jesus was born, when he was little, does he have the consciousness that he is God?
Voilà, c'est des questions en fait qui sont pour nous en tout cas inaccessibles.
This is a question that for us is insolvable.
Et en fait, il est judicieux de ne pas aller plus loin sans rentrer en fait dans des ce qu'on appelle des spéculations.
And it's wise to not go further other than speculations.
Et qui n'apporte rien en fait à l'Évangile.
Which bears no fruit.
Alors pour conclure cet enseignement,
to conclude our teachings today,
on peut retenir donc deux choses importantes.
We can hold two things.
Alors que le symbole de Chalcédoine qui s'appuie sur la parole de Dieu nous apporte les fondements de la nature humaine et divine de Jésus.
The creed of the Chalcedonia, which is based on scripture, gave us the foundation of the two natures of Christ.
Le symbole de Chalcédoine nous apporte aussi les caractéristiques de l'union des deux natures.
It also gives us the characteristic of the two natures.
Et que ce symbole de Chalcédoine, en fait, il est absolument nécessaire pour garder la juste doctrine.
And this creed is absolutely necessary because it tells us about the, it helps us to keep the doctrine correct.
Et en particulier pour défendre la juste doctrine de la croix.
Especially to defend about the doctrine of the cross.
Et puis la deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que sans le symbole de Chalcédoine,
the second thing is that without the creed of Chalcedonia,
on voit tout de suite qu'on ne peut pas réfléchir sans tomber dans l'hérésie.
We will see that we cannot even reflect without falling into the errors.
Et des hérésies, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, qui existent encore aujourd'hui et qu'il faut combattre pour préserver l'Église du Seigneur.
Such as the heresies that we have talked about, that some of them are still existing today, and we have to defend our church against them.
Amen. Merci Sean. On va finir dans la prière et puis on va attaquer la louange. Ouais. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. C'est vrai que dans la parole tout est important, Seigneur, et bien connaître qui tu es, même intérieurement parlant, Seigneur, c'est important pour effectivement combattre les hérésies, Seigneur, et vraiment garder le message de l'Évangile, que ton salut, Seigneur, que tu as acquis pour nous à la croix, était vraiment, Seigneur, un sacrifice 100% humain, 100% divin, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous et nous devons vraiment comprendre pleinement ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir nourris. Bénis aussi Sean pour avoir traduit, Seigneur. Et vraiment, nous remettons la fin de notre culte entre tes mains, Seigneur, ce temps de louange. Amen.